La bibliothèque de Radio Orient, des regards croisés sur la littérature. La bibliothèque de Radio Orient avec Loïc Barrière.
L'invité de la bibliothèque de Radio-Orient est l'écrivain René Guiton. Vous publiez 50 moments clés de l'histoire de l'Orient dans la collection 3 minutes pour comprendre au courrier du livre. Bonjour.
Bonjour.
Alors René Guiton, j'avais eu le plaisir de vous rencontrer pour un autre ouvrage, Le dictionnaire amoureux de l'Orient aux éditions Plon. Votre dernier livre s'intéresse à 50 moments clés de l'histoire de cette région. On commence par la préhistoire, on va jusqu'aux révolutions arabes, en passant par l'Égypte antique, la naissance de l'islam, Gamal Abdel Nasser, les accords d'Oslo. C'est un livre très riche. Qu'est-ce qui vous a guidé dans ce travail, René Guiton?
D'abord, le goût de l'Orient. Vraiment, le désir d'Orient, et vous, sur Radio Orient, et vous-même, vous comprenez cela. Depuis l'enfance, parce que mon père avait été en poste à Latakié, le port syrien, au temps du mandat français, donc moi je suis né après. Mais il envoyait régulièement des souvenirs, des cartes postales. Il est revenu une ou deux fois avec des pièces d'or, etc. Et donc, moi, je suis né dans un univers où il y avait cet Orient qui me berçait au quotidien. Et donc, je regardais toujours vers l'Orient où j'étais appelé, inspiré. Et donc, par la suite, j'ai grandi, etc. Je suis né à Casablanca, au Maroc, donc dans un pays qui était un mélange des cultures. La présence de l'Orient était très forte à travers la langue, même si c'est pas exactement la même langue, à travers la cuisine, même si c'est pas exactement la même cuisine. Mais bon, bref, ça me donnait le goût de l'Orient. Alors, ce qui m'a guidé ensuite, ce sont mes études. J'ai étudié à l'école française biblique et archéologique de Jérusalem. Quand on est à Jérusalem, on est au cœur de tout ce qui est très proche de la naissance des grands courants de l'Orient qui nous bercent, qui ont fondé notre civilisation, qui ont marqué notre civilisation, comme l'invention de l'écriture. Je parle avant les hiéroglyphes de l'écriture cunéiforme qui va naître dans le pays de Sumer, et donc je suis allé découvrir cette écriture en Irak d'aujourd'hui, donc dans Mésopotamie, jusqu'à Babylone, jusqu'à Ur des Chaldéens, comme il est écrit dans la Bible. Forcément, vous tirez un fil, et c'est un fil d'Ariane, parce que quand vous allez à Ur, il y a peu de gens qui y sont allés, j'y suis allé, vous découvrez la ziggourat d'Ur, qui est un embryon de la tour de Babel, ou en tous les cas ce qu'il en reste. On ne sait pas exactement où est la tour de Babel, mais vous avez tiré le fil de la tour de Babel, et puis vous êtes donc à l'origine des croyances avant qu'elles ne deviennent des religions. Vous découvrez forcément ce qui sont les mots qui courent aujourd'hui, les noms qui courent aujourd'hui, qui ont fondé notre civilisation, parce que à Ur, vous ouvrez la Bible. Dans l'Ancien Testament, il est tout de suite question d'Ur, de la naissance d'Abraham. Ah, ça y est, Ur, donc vous avez tiré le fil, Abraham, et ainsi de suite. Abraham, ensuite, vous ouvrez le Coran, et bien sûr, vous trouvez Ibrahim, et vous y découvrez les convergences ou les points communs sur les grandes traditions, les croyances ou les légendes. Abraham est présent dans les trois monothéismes. Et donc, quand vous êtes à Ur des Chaldéens, qui se trouve donc, ça me paraît commun, mais Ur se trouve dans le sud de l'Irak actuel vers le golfe Persique. Et là, vous découvrez non seulement l'invention de l'écriture, elle apparaît, mais comment elle est écrite, cette écriture. Vous y trouvez les calames, parce que les musées de Bagdad, les musées d'Alep, les musées, je parle de ces musées que j'ai découverts au fil et à mesure, enfin au fil de ma vie, au fur et à mesure de ma vie, ils sont riches, mais riches de nos origines. Je parle, quand je dis nos origines, je parle de notre civilisation. Et donc, vous voyez comment et pourquoi les premiers hommes ont été obligés d'inventer cette écriture. Parce que les rois créaient des textes de loi, et puis créaient également des documents administratifs. Il fallait gérer des stocks de blé, des stocks de tout. C'est fabuleux. D'ailleurs, je le signale au passage, mais quand on va au Louvre, quand même beaucoup de gens, c'est à la portée de beaucoup de gens, ou qui habitent pas trop loin, je dirais, ou qui y passent, ou qui y passeront. Vous voyez la stèle du roi Hammurabi, roi de Babylone, et Hammurabi écrit dans cette stèle, et il y en a eu une autre, un autre code qui l'a précédé, genre 2000 avant notre ère, mais un code, le code d'Hammurabi est formidable. Il dit ne pas voler, ne pas. Vous savez, c'est la préfiguration des tables de la loi qui vont, elles, intervenir selon les traditions un millénaire et demi plus tard. Donc, ce code d'Hammurabi, les hommes ont été obligés, se sont sentis obligés de créer des lois. Et ce ne sont pas des conseils, ce sont des lois. Si elles ne sont pas respectées, il y a condamnation. Tu ne prendras pas le bien de ton voisin. Tu ne tueras pas, bien sûr. Tu ne voleras pas. Tu ne prendras pas la femme de ton voisin, etc. Et donc, on est en 1793 avant notre ère. Donc, c'est là que l'on voit les effets premiers de la civilisation, en dehors des effets concrets à travers cette écriture, à travers ces codes. Il y a l'écriture, mais il y a les lois. J'adore cette période, j'adore cette région, parce qu'elle est notre source. Et ensuite, dans un mouchoir de poche, vont naître les trois religions monothéistes.
Justement, René Guiton, l'Occident doit beaucoup à l'Orient, vous l'avez dit, la naissance de l'écriture, la naissance du monothéisme, et vous évoquez aussi les rencontres de l'Orient et de l'Occident, notamment avec les croisades. Vous racontez que les croisés massacrent la quasi-totalité des habitants juifs et musulmans de Jérusalem. Saladin, lui, traitera les chrétiens, écrivez-vous, de manière chevaleresque, les autorisant à rester sur place. Vous avez voulu rappeler certaines vérités oubliées ?
Oui, c'est très important de le rappeler, parce que le bien n'est pas que d'un côté, le mal n'est pas que d'un côté. Il faut tout de même rappeler aux hommes qu'ils sont gérés par des sentiments, des pulsions, qu'ils peuvent maîtriser. Les croisés sont partis et n'ont eu qu'une idée, c'était de protéger le tombeau du Christ. C'était la motivation lancée par le pape Urbain, et ils sont arrivés là-bas et ont massacré tout ce qu'ils ont trouvé, juifs, musulmans. C'était massacrer ceux qui entouraient, qui vivaient dans la ville où il y avait le tombeau du Christ. Et ensuite, ils ont bâti aussi. Ils ont bâti des forts, qui sont toujours debout, certains. Et ensuite, moi j'ai lu des documents anciens où il est relaté que le sang montait jusqu'aux genoux dans les rues de Jérusalem après ces massacres des croisades. Bon, c'est une allégorie, sûrement, parce que il en faut pour monter jusqu'aux genoux. Mais c'est dire la sauvagerie, la violence terrible qu'il y a eu à ce moment-là. Bon. Et bien sûr qu'on trouve ensuite des êtres chevaleresques. Mais déjà, je vous parlais tout à l'heure de la figure d'Abraham. Et la figure d'Abraham, elle est dans les trois monothéismes, et ces monothéismes, les trois religions, montrent combien ce premier patriarche, qui, selon les traditions, s'est adressé à Dieu, Dieu lui serait apparu, etc. Que l'on croit ou que l'on ne croit pas les livres sacrés des trois monothéismes, des trois religions, eh bien, c'est la volonté, ça montre la volonté des hommes de créer un personnage commun à tous les hommes de ce temps, qui soit le symbole même de l'accueil, le symbole même de l'amour des hommes en général, etc., sans différence entre les uns et les autres. Donc, on a voulu, les rédacteurs ont voulu créer ce personnage ou révéler ce personnage avec des vertus qui devraient, aujourd'hui encore, et quand on en parle là, aujourd'hui, on sait combien la violence est loin d'être éradiquée. Eh bien, lui, c'est un modèle. C'est un modèle pour tous. Et il n'est pas tombé du ciel, je dirais. S'il a été célébré et maintenu dans les trois religions, écrit dès le départ, c'est parce que les hommes avaient besoin d'un être qui symbolise ce que devait être la relation humaine. Qu'il ait existé ou qu'il n'ait pas existé, on n'en sait rien, parce qu'on n'a pas de preuves écrites de l'époque. Il est hautement symbolique. Et ce sont ces symboles que je trouve en Orient, au fur et à mesure, et que, bien sûr, les hommes ont oublié petit à petit, mais auxquels ce livre renvoie. Il renvoie à des figures, des grandes figures historiques, mais il renvoie à des grandes figures symboliques aussi. Et c'est ce qui m'a dirigé, c'est l'arc tendu de mon écriture et de mes recherches, parce que comme vous l'avez dit, le titre c'est 3 minutes pour comprendre l'histoire de l'Orient, c'est un gag quand on lit ça, mais en fait c'est 3 minutes par page, et comme je l'écris, 3 minutes pour lire la page, mais une vie entière pour écrire ce livre.
Effectivement, votre livre nous donne un aperçu de sujets extrêmement intéressants et importants. Vous parlez de l'inauguration du canal de Suez, des accords Sykes-Picot. Vous nous parlez aussi plus près de nous de la chute de Saddam Hussein. Mais il y a aussi des focus sur des personnages comme Akhenaton, Soliman le Magnifique, ou encore quelqu'un comme Shapur Ier ou bien Ahmed Ourabi, personnage moins connus, mais qui sont essentiels. Alors, dans ce livre, vous abordez aussi un sujet qui vous tient à cœur, René Guiton, les minorités en Orient, des minorités, écrivez-vous, qui sont menacées d'effacement alors qu'elles sont une composante essentielle de l'Orient.
Oui, très important, parce que il y a la perception de l'Occident vue de l'Afrique du Nord, qui est une chose, mais la perception également de l'Occident vu de l'Orient. Je m'explique. Au Maghreb, le colon est arrivé avec ses églises, ses croyances, et a amené sa culture et sa culture religieuse. Alors qu'en Orient, ce christianisme existait dès l'avènement du Christ. Et donc, quand l'islam est arrivé, beaucoup plus tardivement, eh bien, ce christianisme existait. En Afrique du Nord, les églises ont été bâties bien, bien plus près de nous, il y a 200 ans, 300 ans maximum. Et donc, la perception que le Maghrébin pouvait avoir ça n'a pas toujours été un colonisateur ou un envahisseur, mais en tous les cas, de l'Occidental, je dirais, et en Afrique, toute l'Afrique pareil, Eh bien, cet occidental, qu'il soit italien, français, allemand, anglais, le colonisateur est arrivé avec sa religion. Et l'a installée, je ne dis pas imposée, mais en tous les cas, l'a installée. Alors qu'en Orient, elle existe. Elle existe depuis toujours, depuis 2000 ans en tous les cas. Toujours, c'est beaucoup dire, mais il y avait les Hébreux, et donc le judaïsme d'abord, mais arrive le christianisme, et l'islam va arriver beaucoup plus tardivement. Donc la perception est très différente que celle que l'on peut avoir lorsqu'on est au Maghreb. Moi, j'ai voulu faire ressortir tout cela, bien sûr à travers ces grandes figures, qui, hautement attachés à la religion, comme parce qu'on oublie, mais par exemple, Khomeini arrive, redonne tout près de nous, puisque nous l'avons pas tous vécu, les jeunes enfants non, mais en tous les cas, dans la fin des années 70, les années début 80, Khomeini est une figure d'un certain islam qui va redonner un élan à l'islam. Et n'oublions pas qu'il y a eu une période très très laïque où aussi bien Atatürk ou Gamal Abdel Nasser, vous en parliez tout à l'heure, est penché vers une société très laïque et certains sont arrivés, donc beaucoup plus près de nous, et ont redonné un élan à cet islam, avec les excès qui sont à regretter, mais en tous les cas, dans certains cas. Mais en tous les cas, redonner un élan, un redémarrage à une pratique de l'islam. Donc tout ça, j'ai voulu le séquencer, selon l'histoire bien sûr, et croyez-moi c'est un travail fou, pour tout vous dire même, il y a une iconographie qui est merveilleuse, elle n'est pas due à moi, donc je peux dire qu'elle est merveilleuse, elle est due à un iconographe qui a travaillé avec moi, et surtout avec... l'éditrice Sophia Tazisatek, qui a fait des recherches en binôme avec moi, qui a trouvé des choses merveilleuses, mais celle de la couverture, la petite illustration de la couverture. L'éditeur voulait, je vous livre ce petit clin d'œil, mais l'éditeur voulait, parce que ce clin d'œil qui a duré des semaines, hein, l'éditeur pensait mettre une femme en couverture, une femme qui représentait l'Orient. Et je dis non, ça, on va tomber dans des odalisques, dans des femmes sensuelles, etc. C'est pas ça l'Orient. Là. Bien sûr qu'il y a des femmes et des femmes merveilleuses, mais bon. Et donc, je me suis dit quoi ? Un cavalier. Voilà, un cavalier, parce que même aujourd'hui encore, il y a de nombreux cavaliers dans les Émirats, etc. Bon. Et oui, d'accord, quel cavalier ? Alors, on m'a proposé toutes sortes de cavaliers. Et tout d'un coup, je les voyais en armure, donc c'était des cavaliers croisés, donc j'en voulais pas. Et bon, finalement, j'ai dit, écoutez, prenez un mamelouk. Eh bien, on a passé un temps fou à trouver ce cheval, qui lui-même est beau, avec un mamelouk qui est beau lui aussi, alors que c'est une toute petite miniature en couverture. Donc ce travail a été fou. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Lire une page, oui, en 3 minutes, mais l'écrire... C'est une vie, ça a été ma vie.
En tout cas, c'est véritablement un livre à posséder, à offrir aussi aux gens que l'on aime pour leur faire découvrir l'Orient. Je rappelle, René Guiton, le titre de ce très beau livre, 50 moments clés de l'histoire de l'Orient, dans la collection 3 minutes pour comprendre, au courrier du livre. Merci.
Merci à vous.
C'était la bibliothèque de Radio Orient avec Loïc Barrière.